From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à une session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur de missionnaires du Centre de formation des missionnaires de Provo. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Henry B. Eyring.
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la deuxième session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons toutes les personnes qui sont ici présentes ou qui suivent la conférence au moyen de la télévision, de la radio ou de l'Internet et autres qui sont réunis dans les centres de pieux dans diverses parties du monde où elle est diffusée par satellite. La musique de cette session sera interprétée par un chœur mixte de missionnaires du Centre de formation des missionnaires de Provo en Utah sous la direction de Douglas Brenchley et Ryan Eggett avec Bonnie Goodleaf à l'orgue. Le chœur ouvrira la réunion en chantant « Gloire au Dieu Tout-Puissant ». Ensuite, William R. Walker, des 70, fera la prière d'ouverture.
Our Father in heaven,
notre Père éternel, avec reconnaissance au cœur, nous venons vers toi au commencement de cette merveilleuse session de conférence générale. Nous sommes vraiment reconnaissant de ces bénédictions, de vivre à une époque où un prophète et des apôtres sont sur la terre, reconnaissant de pouvoir être enseigné par eux à cette session de conférence, reconnaissant pour cette occasion d'avoir aujourd'hui la possibilité de lever la main pour soutenir ceux que tu as appelés à la première présidence qui nous seront présentés. Non seulement lever la main, mais également avoir ces choses dans notre cœur et dans nos vies, de manière à ce que nous puissions vraiment soutenir nos dirigeants, ceux qui seront nous seront proposés. Nous sommes reconnaissants pour le fait de diriger la direction par président Manson et ses conseillers. Bénis-les, s'il te plaît, ainsi que Frère Packer et les 12 et tous ceux qui servent avec eux à travers cette œuvre. Bénis-nous afin que nous puissions avoir ton esprit en abondance pour cette session. Bénis ceux qui vont parler, les orateurs, qu'ils aient la force de transmettre ton message, et tous ceux qui chantent et qui participent afin que nous soyons édifiés, élevés, et puissions participer à cette session merveilleuse de conférence. Nous t'aimons, Père, et nous prions pour ces choses avec gratitude. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Dieter F. Uchtdorf va maintenant présenter les officiers généraux et les 70 d'interrégion de l'Église pour un vote de soutien. Après quoi, Robert Cantwell, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport annuel. Il sera suivi de Brooke P. Ailes, secrétaire de la première présidence, qui présentera le rapport statistique de l'Église pour l'année 2011. Frères et sœurs, il nous est proposé de soutenir Thomas Spencer Monson comme prophète, voyant et révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Henry Benyon Ehring comme premier conseiller dans la première présidence et Dieter Friedrich Uchtdorf comme deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Boyd Kenneth Packer comme président du Collège des 12 apôtres et les membres suivants de ce collège. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dalish S. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Ailes, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson et Neil L. Anderson. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Stephen E. Snow a été relevé de son appel de membre de la présidence des collèges des 70. Que ceux d'entre vous qui veulent lui exprimer avec nous leur remerciement le manifestent. Il nous est proposé de soutenir Richard G. Maines comme membre de la présidence des collèges des 70. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Il nous est proposé de relever avec un vote de remerciement Gérald Cossé et Gary Stevenson comme membres du premier collège des 70. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Il nous est proposé de relever, après de nombreuses années de service fidèle et efficace, H. David Burton, Richard C. Edgley et Keith B. McMullen de leur appel à l'épiscopat président et de les nommer autorité générale émérite. Que ceux d'entre vous qui veulent leur exprimer avec nous leur remerciement le manifestent. Il nous est proposé de relever a daté du 1er mai 2012 les 70 d'interrégions suivants.
Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, César A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us,
que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance à ces frères pour leur excellent service le manifestent. Il nous est proposé de relever avec un vote de remerciement sincère Julie B. Beck, Sylvia Allred et Barbara Thompson comme présidence générale de la Société de Secours. Nous relevons également les membres du Bureau général de la Société de Secours. Que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leurs remerciements à ces sœurs pour leur remarquable service et leur dévouement le fassent.
It is proposed,
il nous est proposé de soutenir, comme nouveaux membres du premier collège des 70, Craig A. Carden, Stanley J. Ellis, Larry Echo Oak, Robert C. Gay, et Scott D. Whiting. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Que ceux qui sont opposés le manifestent par le même signe. Il nous est proposé de soutenir Gary E. Stevenson comme évêque-président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec Gérald Cossé comme premier conseiller et Dean Myron Davis comme deuxième conseiller. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de soutenir comme nouveau 70 d'interrégion
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocampo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Louis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Ellen Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please.
Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Y a-t-il des avis contraires? Il nous est proposé de soutenir Linda Kerr Burton comme présidente générale de la Société de secours, avec Carol Mansell Stephens comme première conseillère et Lynn Sheffield Reeves comme deuxième conseillère. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 d'interrégions et président général d'auxiliaires actuels. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Président Monson, pour ce que j'ai pu observer, le vote dans le centre de conférence a été unanime en faveur des propositions faites. Merci, mes frères et sœurs, de votre vote de soutien et de votre foi, votre dévouement et vos prières constantes. Nous invitons les autorités générales et la présidente générale de la Société de secours à venir prendre leur place sur l'estrade.
There are the sisters.
Voici les sœurs.
And the brethren.
Et les frères.
Thank you.
Merci. À présent, frère Cantwell va lire le rapport d'apurement pour l'année 2011. Il sera suivi de frère Ailes.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
À l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation de la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le conseil d'affectation de la dîme qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Ce conseil est composé de la première présidence, du collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président. Il approuve les budgets des départements, des établissements de l'Église et les montants alloués aux unités ecclésiastiques. Les entités de l'Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. Accès a été donné au département d'apurement de l'Église à tous les registres et systèmes nécessaires pour évaluer l'adéquation des contrôles des recettes et des dépenses et la protection des biens de l'Église. Le département d'apurement de l'Église est indépendant de tous les autres départements et établissements de l'Église et le personnel se compose d'experts comptables, de contrôleurs de gestion interne, de vérificateurs de systèmes informatiques et d'autres professionnels certifiés. Suite à nos vérifications, le département d'apurement de l'Église estime que, dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'exercice 2011 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables appropriées au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. Respectueusement, département d'épurement de l'Église, Robert W. Cantwell, directeur général. La première présidence a publié le rapport statistique suivant sur la situation de l'Église. Au 31 décembre 2011, il y avait 2946 pieux, 340 missions, 608 districts et 28 784 paroisses et branches. Fin 2011, le nombre total des membres de l'Église était de 14 441 346. Il y a eu 119 917 nouveaux enfants inscrits dans l'Église et 281 312 convertis et baptisés. À la fin de l'année, il y avait 55 410 missionnaires à plein temps. Il y avait 22 299 missionnaires des services de l'Église, dont la plupart vivent chez eux et sont appelés à assumer diverses fonctions de l'Église. Deux temples ont été consacrés l'année passée, le temple de San Salvador au Salvador et le temple de Quetzaltenango au Guatemala. Le temple d'Atlanta en Géorgie, aux États-Unis, a été reconsacré en 2011. Le nombre total de temples en service dans le monde à la fin de l'année 2011 était de 136. Anciens officiers généraux et autres membres éminents de l'Église décédés depuis avril dernier, Marion D. Hanks, Jack H. Costlin fils, Monte Gibra, Ronald E. Paulman et Keith W. Wilcox, tous anciens membres du Collège des 70. Joy F. Evans et Chico N. Okasaki, conseillères dans la présidence générale de la Société de secours. Norma Sontag, épouse de Philippe T. Sontag, autorité générale émérite. Argelia Villanueva de Alvarez, épouse de Lino Alvarez, ancien 70. Wendell M. Smoot Jr., ancien président du Chœur du Tabernacle.
We will now be pleased.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Jeffrey R. Holland du Collège des Douze Apôtres. Après son discours, le chœur chantera Brillante étoile, étoile du matin. Puis Robert D. Hales du Collège des Douze Apôtres nous adressera la parole. Elder, frère Holland. À la lumière des appels et relèves que la première présidence vient d'annoncer, je vous dis au nom de tous que nous souviendrons toujours de ceux qui ont travaillé fidèlement avec nous et que nous les aimerons, tout comme nous aimons et saluons d'emblée ceux qui viennent d'entrer en fonction. Un grand merci à vous tous. Aujourd'hui, je vais parler de la parabole du Sauveur, dans laquelle un maître de maison sortit dès le matin afin de louer des ouvriers. Après avoir engagé un premier groupe à 6h du matin, il retourne à 9h, à midi et à 15h pour louer d'autres ouvriers car la récolte devient de plus en plus urgente. Les Écritures disent qu'il est retourné une dernière fois, vers la 11e heure, environ 15h, pour engager un dernier groupe. Ensuite, à peine une heure plus tard, tous les ouvriers se rassemblent pour recevoir leur salaire de la journée. À leur grande surprise, tous reçoivent le même salaire, indépendamment du nombre d'heures travaillées. Immédiatement, les premiers ouvriers se mettent en colère et disent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous ». Nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. En lisant cette parabole, vous aussi, comme ces ouvriers, avez peut-être eu le sentiment qu'il y avait là une injustice. C'est de cela que je vais parler. Avant tout, il est important de noter que personne n'a été traité injustement dans cette parabole. Les premiers ouvriers avaient accepté le salaire journalier et l'ont reçu. De plus, ils étaient, je l'imagine, très reconnaissants d'avoir obtenu le travail. À l'époque du Sauveur, un homme ordinaire et sa famille ne pouvaient guère faire mieux que vivre au jour le jour. S'ils ne travaillaient pas, ne cultivaient pas, ne pêchaient pas ou ne vendaient pas, ils ne mangeaient probablement pas. Avec plus de personnes cherchant un travail que de place à pourvoir, les premiers hommes embauchés étaient les plus chanceux de tous les candidats au travail de ce matin-là. En effet,
S'il y avait de quoi compatir, ce devait être, du moins au départ, pour les hommes qui n'avaient pas été choisis et qui avaient des bouches à nourrir et des êtres à vêtir. La chance semblait ne jamais sourire à certains d'entre eux. À chaque visite du maître de maison au cours de la journée, ils voyaient que c'était toujours quelqu'un d'autre qui était choisi. Mais alors que le jour tira sa fin, le maître de maison rend une cinquième visite surprise et fait une offre remarquable de la onzième heure. Ces derniers ouvriers, les plus découragés, entendant seulement qu'ils seront traités équitablement, acceptent le travail sans même en connaître le salaire, sachant que n'importe quoi sera mieux que rien, ce qu'ils ont eu jusqu'à présent. Puis, en allant chercher leur salaire, ils sont surpris de recevoir la même chose que tous les autres. Comme ils ont dû être stupéfaits et reconnaissants. Assurément, ils n'auront jamais vu pareille compassion dans toute leur vie de labeur. C'est par rapport à cette lecture de l'histoire que l'on doit juger des murmures des premiers ouvriers. Comme leur dit le maître de maison dans la parabole, je vais légèrement paraphraser. Mes amis, je ne vous fais pas tort. Vous avez accepté le salaire de la journée, un bon salaire. Vous étiez heureux d'avoir le travail. Et je suis très heureux de votre service. Vous êtes intégralement payé. Prenez votre salaire et jouissez-en. Quant aux autres, je suis sans aucun doute libre de faire ce que je veux de mon argent. Ensuite vient cette question pénétrante, adressée à tous ceux d'alors ou d'aujourd'hui qui ont besoin de l'entendre. Voyez-vous d'un mauvais œil que je sois bon? Frères et sœurs, il y aura des moments dans notre vie où quelqu'un d'autre recevra une bénédiction inattendue ou une marque de reconnaissance quelconque. Je nous supplie de ne pas être blessés et assurément de ne pas être envieux si la chance sourit à quelqu'un. Nous ne sommes pas plus pauvres quand quelqu'un d'autre reçoit davantage. Nous ne sommes pas dans une compétition pour savoir qui est le plus riche, qui a le plus de talent, qui est le plus beau, ni même qui est le plus béni. La course dans laquelle nous sommes véritablement est celle contre le péché. Et il ne fait pas de doute que l'envie en est l'un des plus répandus. En outre, l'envie est une faute qui s'entretient toute seule. Il est évident que nous souffrons un peu quand la malchance s'abat sur nous. Mais l'envie nous oblige à souffrir de toute chance qui arrive à tous ceux que nous connaissons. Quelle merveilleuse perspective que d'avaler un litre de vinaigre chaque fois que quelqu'un autour de nous a un moment de joie. Sans parler du dépit final quand nous verrons que Dieu est en réalité à la fois juste et miséricordieux, établissant tous ceux qui seront avec lui sur tous ses biens, comme le dit l'Écriture. Donc, première leçon de la vigne du Seigneur, convoiter, bouder ou rabaisser les autres ne vous élève pas. Pas plus que rabaisser quelqu'un d'autre n'améliorera votre perception de vous-même. Soyez donc gentil et soyez reconnaissant que Dieu soit bon. C'est une manière de vivre qui rend heureux. Le deuxième point que j'aimerais tirer de cette parabole est la triste erreur que pourraient faire certains s'ils devaient perdre leur salaire à la fin de la journée, parce qu'ils étaient préoccupés, parce qu'ils considéraient comme des problèmes plus tôt dans la journée. Il n'est pas dit ici que quiconque ait envoyé sa pièce au visage du maître de maison et soit parti furieux et sans argent. Mais j'imagine que cela aura pu se faire. Mes chers frères et sœurs, ce qui s'est passé dans cette histoire, à 9h, à midi ou à 15h, est dérisoire par rapport à la grandeur du paiement généreux fait à tous à la fin de la journée. La formule de la foi, c'est persévérer, continuer à travailler, aller jusqu'au bout et laisser la détresse réelle ou imaginaire des heures précédentes se dissiper devant l'abondance de la récompense finale. Ne ruminez pas de vieux problèmes ou griefs, que ce soit contre vous ou contre votre prochain, ou même, pourrais-je ajouter, contre l'Église vraie et vivante. La majesté de votre vie, de celle de votre prochain et de l'Évangile de Jésus-Christ sera rendue manifeste au dernier jour, même si, au début, elle n'est pas reconnue par tous. Alors ne vous souciez pas outre mesure de ce qui s'est passé à 9 heures du matin, quand la grâce de Dieu essaie de vous récompenser à 6 heures du soir, quels qu'étaient les termes de votre contrat de travail durant la journée. Nous consumons un capital émotionnel et spirituel précieux quand nous nous accrochons obstinément au souvenir d'une note discordante jouée dans un récital de piano de notre enfance ou à quelque chose que notre conjoint a dit il y a 20 ans et que nous avons décidé de lui reprocher pendant encore 20 ans. Ou un incident de l'histoire de l'Église qui ne prouve qu'une seule chose, que les mortels auront toujours du mal à être à la hauteur des espérances immortelles qui leur sont offertes. Même si vous n'étiez pas à l'origine d'un de ces griefs, celui-ci peut prendre fin avec vous. Et quelle récompense vous recevrez pour cela quand le Seigneur de la vigne vous regardera dans les yeux et que les comptes seront réglés à la fin de vos jours sur terre. Ce qui m'amène à mon troisième et dernier point. Cette parabole, comme toute parabole, n'a pas plus à voir avec le travail de la terre ou un salaire que les autres paraboles ont à voir avec les brebis ou des chèvres. C'est une histoire sur la bonté de Dieu, sur sa patience et son pardon, et sur l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. C'est une histoire sur la générosité et la compassion. C'est une histoire sur la grâce. Elle souligne cette pensée que j'ai entendue il y a bien des années, disant que ce que Dieu aime le plus dans le fait qu'il est Dieu, c'est la joie d'être miséricordieux. Particulièrement envers ceux qui ne s'y attendent pas et ont souvent l'impression de ne pas le mériter. Je ne sais pas qui, dans cette grande assemblée, peut avoir besoin d'entendre les messages de pardon inhérents à cette parabole. Mais, aussi tard qu'il soit pour vous dans votre esprit, quel que soit le nombre d'occasions que vous pensez avoir manquées, quel que soit le nombre d'erreurs que vous pensez avoir commises, ou les talents que vous croyez ne pas avoir, ou la distance que vous voyez avoir mise entre vous et votre foyer, votre famille et Dieu, je témoigne que vous n'êtes pas hors de la portée divine de son amour. Il ne vous est pas possible de tomber plus bas que là où brille la lumière infinie de l'expiation du Christ. Que vous ne soyez pas encore de notre religion, ou que vous l'ayez été, mais n'êtes pas resté, il n'est rien que vous ayez fait qui ne puisse être défait. Il n'est aucun problème que vous ne puissiez surmonter. Il n'est aucun rêve qui, dans le déroulement du temps et de l'éternité, ne puisse être réalisé. Même si vous avez l'impression d'être le dernier ouvrier perdu de la 11e heure, le Seigneur de la vigne est là et il vous appelle. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce et tombez aux pieds du Saint d'Israël. Venez et faites-vous un festin. sans argent et sans rien payer à la table du Seigneur. Je lance particulièrement un appel aux maris et pères, aux détenteurs et futurs détenteurs de la prêtrise, comme Lehi l'a fait. Éveillez-vous et levez-vous de la poussière et soyez des hommes. Ce n'est pas toujours le cas, mais ce sont souvent les hommes qui choisissent de ne pas répondre à l'appel de serrer les rangs. Les femmes et les enfants semblent souvent mieux disposés. Frères, agissez. Faites-le pour votre bien. Faites-le pour ceux qui vous aiment et qui prient pour que vous réagissiez. Faites-le pour le Seigneur Jésus-Christ, qui a payé un prix incommensurable pour l'avenir qu'il veut que vous ayez. Mes frères et sœurs bien-aimés, à ceux d'entre vous qui ont été bénis par l'Évangile pendant de nombreuses années, parce qu'ils ont eu assez de chance pour le trouver de bonheur, à ceux d'entre vous qui sont venus à l'Évangile par étapes et phases successives, et à ceux d'entre vous, enfin, membres et non-membres encore, qui pourraient rester en arrière, à chacun de vous, à tous, je témoigne du pouvoir de renouvellement de l'amour de Dieu et du miracle de sa grâce. Sa préoccupation est la foi que vous acquérez à la fin, pas l'heure du jour à laquelle vous y arriverez. Si donc vous avez fait des alliances, respectez-les. Si vous ne les avez pas contractées, faites-le. Si vous les avez faites et ne les avez pas respectées, repentez-vous et réparez. Il n'est jamais trop tard. Tant que le maître de la vigne dit qu'il y a du temps. Écoutez, je vous en prie, les chuchotements du Saint-Esprit qui vous dit, en ce moment même, que vous devriez accepter le don expiatoire du Seigneur Jésus-Christ et jouir de la participation à son œuvre. Ne différez pas. Il se fait tard. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Le Sauveur a parlé à ses apôtres d'un fils qui quitta son père fortuné, alla dans une contrée lointaine et gaspilla son héritage. Lorsqu'il y eut une famine, le jeune homme accepta l'humble travail de nourrir des porcs. Il avait tellement faim qu'il aurait mangé les carouges destinées aux animaux. Tandis qu'il était loin de chez lui, loin de l'endroit où il voulait être, et dans son état d'extrême pauvreté, une chose de nature éternelle se produisit dans la vie de ce jeune homme. Comme le dit le Sauveur, il rentra en lui-même. Il se rappela qui il était, se rendit compte de ce qu'il avait manqué et commença à désirer les bénédictions accessibles gratuitement dans la maison de son Père. Tout au long de notre vie, que ce soit dans les moments de ténèbres, de difficultés, de chagrin ou de péché, nous pouvons sentir le Saint-Esprit nous rappeler que nous sommes réellement les fils et les filles d'un Père céleste qui prend soin de nous et qui nous aime, et éprouver le désir ardent d'obtenir les bénédictions sacrées que lui seul peut nous donner. Quand cela se produit, nous devons nous efforcer de rentrer en nous-mêmes et de revenir dans la lumière de l'amour de notre Sauveur. Ces bénédictions appartiennent de droit à tous les enfants de notre Père Céleste. L'aspiration à ces bénédictions, notamment une vie de joie et de bonheur, est un élément indispensable du plan de notre Père Céleste pour chacun de nous. Le prophète Alma enseigne, « Si vous ne pouvez faire plus que désirer croire, laissez ce désir agir en vous. » À mesure que nos aspirations spirituelles augmentent, nous devenons spirituellement autonomes. Alors comment aidons-nous les membres de notre famille et nous-mêmes à aspirer davantage à suivre le Sauveur et à vivre son Évangile? Comment renforçons-nous notre désir de nous repentir, de devenir dignes et de persévérer jusqu'à la fin? Comment aidons-nous nos adolescents et nos jeunes adultes à laisser ces aspirations agir en eux jusqu'à ce qu'ils soient convertis et deviennent de vrais saints par l'expiation du Christ? Nous nous convertissons et devenons spirituellement autonomes quand nous vivons nos alliances avec l'aide de la prière, en prenant dignement la Sainte Cène, en étant dignes de détenir une recommandation à l'usage du Temple et en faisant des sacrifices pour servir autrui. Pour prendre dignement la Sainte Cène, nous nous souvenons que nous renouvelons l'alliance que nous avons faite lors de notre baptême. Pour que la Sainte Cène soit chaque semaine un moment de purification spirituelle, nous devons nous préparer avant d'aller à la réunion de Sainte Cène. Nous le faisons en laissant volontairement derrière nous nos distractions et notre travail quotidien, et en laissant de côté nos pensées et nos soucis profanes. Ce faisant, nous faisons de la place au Saint-Esprit dans notre esprit et notre cœur. Nous sommes alors prêts à méditer sur l'expiation. Nous ne nous contentons pas de penser aux souffrances du Sauveur et à sa mort. Notre méditation nous aide à prendre conscience que son sacrifice nous donne l'espoir, la possibilité et la force de faire des changements réels et sincères dans notre vie. Pendant que nous chantons le cantique de Sainte Cène, que nous participons aux prières de la Sainte Cène et prenons les emblèmes de la chair et du sang du Sauveur, nous recherchons par la prière le pardon de nos péchés et de nos imperfections. Nous pensons aux promesses que nous avons faites et honorées au cours de la semaine écoulée. Et nous prenons des engagements précis et personnels pour suivre le Sauveur pendant la semaine à venir. Parents et dirigeants, vous pouvez aider les jeunes à connaître les bénédictions incomparables de la Sainte Cène en leur donnant des occasions spéciales d'apprendre de discuter et de découvrir comment l'expiation s'applique à leur vie. Laissez-les sonder les Écritures eux-mêmes et s'enseigner les uns aux autres ce qu'ils en ont retiré. Les pères, les dirigeants de la prêtrise et les présidences de collège ont la responsabilité spéciale d'aider les détenteurs de la prêtrise d'Aaron à accomplir leur devoir sacré de la Sainte Cène. Cette préparation s'accomplit tout au long de la semaine, en vivant les principes de l'Évangile. Lorsque les jeunes gens préparent, bénissent et distribuent la Sainte Cène dignement et avec révérence, ils suivent littéralement l'exemple du Sauveur à la dernière scène et deviennent comme lui. Je témoigne que la Sainte Cène nous donne la possibilité de rentrer en nous-mêmes et d'éprouver un grand changement de cœur pour nous rappeler qui nous sommes et ce que nous désirons le plus. En renouvelant l'alliance de respecter les commandements, nous obtenons la compagnie du Saint-Esprit pour nous ramener en la présence de notre Père Céleste. Il n'est pas étonnant qu'il nous soit commandé de nous réunir souvent pour prendre le pain et l'eau et de prendre la Sainte Cène pour notre âme. En plus de la Sainte Cène, notre désir de retourner auprès de notre Père Céleste augmente quand nous devenons dignes de détenir une recommandation à l'usage du Temple. Nous devenons dignes en obéissant constamment aux commandements. Cette obéissance commence dans l'enfance et s'intensifie grâce aux expériences vécues à la prêtrise d'Aaron et aux jeunes filles. Puis, nous l'espérons, les prêtres et les lauréoles se fixent des buts et se préparent particulièrement à être dotés et scellés dans le temple. Quels sont les principes à respecter pour les détenteurs d'une recommandation? Le psalmiste nous rappelle « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ?» Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Être digne de détenir une recommandation à l'usage du Temple nous donne la force de respecter les alliances du Temple. Comment acquérons-nous personnellement cette force? Nous nous efforçons d'obtenir un témoignage de notre Père Céleste, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de la réalité de l'expiation et de l'authenticité de Joseph Smith, le prophète, et du rétablissement. Nous soutenons nos dirigeants, traitons les membres de notre famille avec gentillesse, témoignons de la véritable Église du Seigneur, assistons à nos réunions de l'Église, honorons nos alliances, assumons nos obligations parentales et menons une vie vertueuse. Vous direz peut-être que cela revient à être simplement un saint des derniers jours fidèle. Vous avez raison. Les principes à suivre pour les détenteurs d'une recommandation à l'usage du Temple ne sont pas si élevés que nous ne puissions les atteindre. Il s'agit simplement de vivre fidèlement l'Évangile et de suivre les prophètes. Puis, en tant que détenteurs d'une recommandation à l'usage du Temple doté, nous prenons des habitudes de vie chrétienne. Cela signifie être obéissant, faire des sacrifices pour respecter les commandements, nous aimer les uns les autres, être chastes en pensée et en action, et nous consacrer à l'édification du royaume de Dieu. Grâce à l'expiation du Sauveur et par notre respect de ses habitudes fondamentales de fidélité, nous recevons du pouvoir d'en haut pour affronter les difficultés de la vie. Nous avons besoin de ce pouvoir divin aujourd'hui plus que jamais. Seules les ordonnances du Temple peuvent nous donner ce pouvoir. Je témoigne que les sacrifices que nous faisons pour recevoir les ordonnances du Temple valent chaque effort que nous pouvons faire. À mesure que nos désirs d'apprendre et de vivre l'Évangile grandissent, nous cherchons naturellement à nous servir les uns les autres. Le Sauveur a dit à Pierre, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Je suis impressionné de voir que les jeunes d'aujourd'hui ont le désir profond de servir les autres et de leur faire du bien, de faire changer les choses dans ce monde. Ils aspirent aussi à la joie que leur service apporte. Cependant, les jeunes ont du mal à comprendre comment les actes qu'ils accomplissent maintenant les préparent ou les disqualifient pour des occasions futures de service. Nous avons tous le devoir impérieux d'aider nos jeunes à se préparer à servir toute leur vie en les aidant à devenir autonomes. En plus de l'autonomie spirituelle dont nous avons parlé, il y a l'autonomie temporelle qui inclut l'acquisition d'une instruction postsecondaire ou d'une formation professionnelle, l'apprentissage du travail et d'un train de vie qui ne dépasse pas nos moyens. En évitant les dettes et en mettant de l'argent de côté maintenant, nous sommes prêts pour le service à plein temps dans l'Église dans les années à venir. L'objectif de l'autonomie temporelle et spirituelle est que nous puissions sécuriser notre position pour aider les personnes dans le besoin. Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, ce que nous faisons maintenant détermine les services que nous pourrons rendre et dont nous pourrons jouir plus tard. Comme le poète nous le rappelle, « De tous les mots prononcés ou écrits, voici les plus tristes. Il aurait pu en être autrement. » Ne passons pas notre vie à regretter ce que nous avons ou n'avons pas fait. Frères et sœurs bien-aimés, le jeune homme dont le Sauveur nous a parlé, celui que nous appelons le fils prodigue, est rentré chez lui. Son père ne l'avait pas oublié, il l'attendait. Et comme son fils était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et l'embrassa. Pour célébrer le retour de son fils, il demanda qu'on lui apportât une robe, un anneau et qu'on mangeât un veau gras, rappelant ainsi qu'aucune bénédiction ne sera retenue si nous persévérons fidèlement en suivant le chemin qui nous ramène auprès de notre Père Céleste. Animé par son amour et celui de son fils, je demande à chacun de nous de suivre ses aspirations spirituelles et de rentrer en lui-même. Regardez-vous dans le miroir. Réfléchissez et demandez-vous, est-ce que je vis en accord avec mes alliances? Nous sommes sur la bonne voie quand nous pouvons dire, je prends dignement la Sainte Cène chaque semaine, je suis digne de détenir une recommandation à l'usage du Temple, et je fais des sacrifices pour servir les autres et leur faire du bien. Je vous rends mon témoignage spécial. Que Dieu aime tant chacun de nous qu'il a donné son Fils unique pour expier nos péchés. Il nous connaît et nous attend même quand nous sommes très loin. En agissant conformément à nos aspirations et en rentrant en nous-mêmes, nous serons enserrés éternellement dans les bras de son amour. Et nous serons les bienvenus dans notre foyer. J'en témoigne au nom sacré de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter Appelés à servir. Après le cantique d'intermède, David S. Baxter et Ulysse Suarez, des 70, nous adresseront la parole. Ils seront suivis de Quentin L. Cook, du Collège des 12 apôtres.
This is the 182nd annual General.
Vous assistez à la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Come to serve in heaven, the kingdom glory, Joseph and to witness for his name. God have my will. My message is for the single parents in the church, the majority of whom are single.
Mon message s'adresse aux parents seuls de l'Église, dont la majorité est constituée de mères seules. Vous, femmes fidèles, qui, en raison des diverses circonstances de la vie, être seules pour élever vos enfants et gérer votre foyer. Vous êtes peut-être veuve ou divorcée. Peut-être devez-vous faire face aux difficultés de la monoparentalité parce que vous avez pris la mauvaise direction en dehors du mariage. Mais vivez maintenant dans le cadre des principes de l'Évangile, ayant mis votre vie en ordre. Soyez bénis pour éviter le type de fréquentation qui nuirait à votre vertu et à votre qualité de disciple. Ce serait un prix trop important à payer. Bien que parfois vous ayez pu vous demander « Pourquoi moi ?», c'est en traversant les difficultés de la vie que nous progressons vers l'état divin, tandis que notre personnalité est façonnée dans le creuset de l'affliction et que des événements se produisent parce que Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Comme Neil A. Maxwell l'a dit, nous ne pouvons comprendre toutes les raisons pour lesquelles les choses sont ce qu'elles sont parce que nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants. Quelles que soient les circonstances ou les raisons de votre situation, vous êtes merveilleuse. Jour après jour, vous faites face aux difficultés de la vie, accomplissant majoritairement seul le travail qui a toujours été conçu pour deux parents. Vous devez être père autant que mère. Vous gérez votre maison, vous veillez sur votre famille, vous peinez parfois à joindre les deux bouts et vous trouvez même miraculeusement le moyen d'œuvrer avec efficacité dans l'Église. Vous élevez vos enfants, vous pleurez et priez avec eux et pour eux. Vous voulez pour eux tout ce qu'il y a de mieux, mais vous vous tracassez toutes les nuits à l'idée que faire de votre mieux ne sera peut-être pas suffisant. Bien que n'aimant pas trop parler de moi, je suis issu d'un tel foyer. Pendant la plus grande partie de mon enfance et de mon adolescence, ma mère nous a élevés dans la pauvreté. L'argent était utilisé avec parcimonie. Elle a dû faire face à une profonde solitude, aspirant parfois de toute son âme à trouver soutien et compagnie. Cependant, en dépit de tout cela, il y avait chez ma mère une dignité, une formidable source de détermination et de force héritée de ses ancêtres écossais. Heureusement, ces dernières années ont été plus bénies que les premières. Elle a épousé un nouveau converti qui était veuf. Ils ont été scellés dans le temple de Londres et y ont brièvement servi plus tard comme servants. Ils ont vécu ensemble pendant près d'un quart de siècle, heureux, contents et comblés jusqu'à leur mort. Vous êtes nombreuses femmes admirables de l'Église partout dans le monde à faire face à des circonstances semblables et à faire preuve, année après année, de la même faculté de résilience. Ce n'est pas exactement ce que vous espériez ou aviez prévu, ce pourquoi vous aviez prié ou que vous aviez attendu au départ il y a des années. Votre traversée de la vie a connu des bosses et des fosses, des détours et des zigzags, essentiellement dus à la vie dans un monde déchu, conçu pour être un lieu de mise à l'épreuve. Entre-temps, vous vous efforcez d'élever vos enfants dans la lumière et la vérité, sachant que si vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez façonner l'avenir. En cours de route, vous obtiendrez des bénédictions compensatoires, même si elles ne sont pas visibles immédiatement. Avec l'aide de Dieu, vous n'avez pas à craindre pour l'avenir. Vos enfants grandiront et vous diront bienheureuses, et chacun de leurs nombreux accomplissements sera un hommage qui vous sera rendu. Ne les surtout pas penser que vous êtes des membres de seconde zone de l'Église et que d'une façon ou d'une autre, vous avez moins droit aux bénédictions du Seigneur que les autres. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de citoyens de deuxième classe. Nous espérons que lorsque vous assisterez à des réunions de l'Église et que vous verrez des familles qui semblent être complètes et heureuses, ou que vous entendrez quelqu'un parler des idéaux familiaux, vous serez contente de faire partie d'une Église qui met l'accent sur la famille et qui enseigne son rôle prépondérant dans le plan de notre Père Céleste pour le bonheur de ses enfants. Que dans un monde de calamité et de déliquescence morale, nous avons la doctrine, l'autorité, les ordonnances et les alliances qui offrent le meilleur espoir pour le monde, notamment pour le bonheur futur de vos enfants et des familles qu'ils fonderont. Lors de la réunion générale de la Société de secours de septembre 2006, le président Hinckley a raconté une expérience vécue par une mère seule, divorcée, ayant 7 enfants, alors âgée de 7 à 16 ans. Elle était allée voir sa voisine d'en face pour lui donner quelque chose. Elle a dit, Quand j'ai fait demi-tour pour rentrer à la maison, j'ai vu de la lumière chez moi. J'entendais l'écho de ce que mes enfants disaient lorsque j'étais sorti quelques minutes plus tôt. Ils disaient « Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Tu peux m'emmener à la bibliothèque ? Je dois aller chercher les grandes feuilles de papier ce soir. » Fatigué, hélas, j'ai regardé la maison et j'ai vu la lumière dans chaque pièce. J'ai pensé à tous les enfants dans la maison qui attendaient mon retour pour que je réponde à leurs besoins. Mes fardeaux me paraissaient trop lourds pour moi. Je me rappelle avoir levé les yeux au ciel à travers mes larmes et avoir dit « Cher Père, je ne peux pas ce soir, je suis trop fatigué, je n'y arrive pas. Je ne peux pas rentrer à la maison et m'occuper seul de tous ces enfants. Ne pourrais-je pas aller à toi et rester avec toi rien qu'une nuit ?» Je n'ai pas réellement entendu les mots, mais je les ai entendus dans mon esprit. La réponse a été « Non, petite, tu ne peux pas venir à moi maintenant, mais moi je peux venir à toi. » Merci, sœur, pour tout ce que vous faites pour élever vos enfants et entretenir un foyer aimant où règne la bonté, la paix et des possibilités d'avenir. Bien que vous vous sentiez souvent seul, en fait, vous n'êtes jamais totalement livré à vous-même. Allez de l'avant avec patience et avec foi, et le Seigneur vous accompagnera. Les cieux vous accorderont les bénédictions dont vous avez besoin. Votre perspective et votre perception de la vie changeront quand, au lieu d'être abattu, vous lèverez les yeux. Beaucoup d'entre vous ont déjà découvert la grande vérité transformatrice qui veut que lorsque vous vivez pour soulager les autres de leur fardeau, les vôtres deviennent plus légers. Même si votre situation ne s'est pas modifiée, votre attitude, elle, a changé. Vous êtes capable d'affronter vos épreuves en les acceptant mieux, avec un cœur plus compréhensif et une reconnaissance plus grande pour ce que vous avez, plutôt qu'avec regret pour ce qui vous manque encore. Vous avez découvert que lorsque nous apportons de l'espoir à ceux qui l'ont perdu, nous nous sommes nous-mêmes réconfortés au point que notre coupe déborde littéralement. Grâce à une vie de justice, vos enfants et vous pourrez un jour connaître la bénédiction de faire partie d'une famille éternelle complète. Membres et dirigeants, pouvez-vous faire plus pour soutenir les familles monoparentales sans les juger ou les critiquer ? Pourriez-vous guider les jeunes de ces familles en donnant particulièrement aux jeunes gens l'exemple de ce que font des hommes de bien et de la façon dont ils vivent? En l'absence des pères, êtes-vous des modèles dignes d'être imités? Il y a bien sûr des familles monoparentales où c'est le père qui est le parent seul. Frères, nous prions aussi pour vous et nous vous rendons hommage. Ce message s'adresse aussi à vous. Parents isolés, je vous témoigne que si vous faites de votre mieux dans les difficultés humaines les plus grandes, les cieux vous souriront. Vous n'êtes vraiment pas seul. Laissez maintenant le pouvoir rédempteur et aimant du Christ illuminer votre vie et vous remplir de l'espoir de promesses éternelles. Prenez courage, ayez la foi et l'espérance. Considérez le présent avec courage et tournez-vous vers l'avenir avec confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
President Monson once said,
le président Monson a dit un jour, je vais vous proposer une formule simple grâce à laquelle vous pourrez évaluer les choix que vous avez à faire. Elle est facile à retenir. Vous ne pouvez pas avoir raison en faisant le mal. Vous ne pouvez pas vous tromper en faisant le bien. La formule du président Monson est simple et directe. Elle fonctionne de la même façon que le liaona donné à Léhi. Si nous faisons preuve de foi et sommes diligents à obéir aux commandements du Seigneur, nous trouverons facilement la bonne direction à suivre, particulièrement lorsque nous devons faire des choix quotidiens. L'apôtre Paul nous parle de l'importance de semer dans l'esprit et de veiller à ne pas semer dans la chair. Il a dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Semer dans l'esprit signifie que toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions doivent nous élever au niveau de la divinité de nos parents célestes. Cependant, les Écritures disent de la chair quelle est la nature physique ou charnelle de l'homme naturel qui fait que nous sommes influencés par nos passions, nos désirs, nos appétits et nos motivations charnelles au lieu de rechercher l'inspiration du Saint-Esprit. Si nous n'y prenons pas garde, ces influences ainsi que la pression du mal dans le monde peuvent nous inciter à adopter une attitude vulgaire et dissipée qui peut devenir un trait de notre personnalité. Afin d'éviter ces mauvais choix, nous devons suivre la recommandation que le Seigneur a faite à Joseph Smith, le prophète, à propos de semer continuellement dans l'esprit. C'est pourquoi ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre, et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Pour améliorer notre esprit, il est requis que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Et ayez de la sagesse pendant les jours de votre épreuve, dépouillez-vous de votre impureté. En étudiant les Écritures, nous apprenons que la réalisation des promesses que le Seigneur nous fait dépend de notre obéissance et qu'elle nous encourage à mener une vie juste. Ces promesses doivent nourrir notre âme en nous donnant de l'espoir et en nous encourageant à ne pas abandonner, alors même que nous sommes en butte à des problèmes quotidiens dus à notre vie dans un monde où les valeurs éthiques et morales disparaissent, poussant ainsi certaines personnes à semer encore davantage dans la chair. Mais comment pouvons-nous être certains que nos choix nous aident à semer dans l'esprit et non dans la chair? George Albert Smith a dit un jour, « Il y a une ligne de démarcation bien définie entre le territoire du Seigneur et le territoire du diable. Si vous restez dans le camp du Seigneur, vous serez sous son influence et vous n'aurez pas le désir de faire le mal. Mais si vous franchissez d'un pouce la ligne du côté du diable, vous êtes au pouvoir du tentateur. Et s'il réussit, vous ne pourrez pas même raisonner correctement parce que vous aurez perdu l'esprit du Seigneur. Par conséquent, la question que nous devons nous poser quotidiennement doit être « Mes actions me placent-elles sur le territoire du Seigneur ou sur celui de l'ennemi ?» Le prophète Mormon a alerté son peuple concernant l'importance de savoir distinguer le bien du mal. C'est pourquoi tout ce qui est bien vient de Dieu et ce qui est mal vient du diable, car le diable est ennemi de Dieu et le combat continuellement et invite et incite continuellement à pécher et à faire ce qui est mal. Mais voici, ce qui est de Dieu invite et incite continuellement à faire ce qui est bien. La lumière du Christ et la compagnie du Saint-Esprit doivent nous aider à déterminer si notre façon de vivre nous situe sur le territoire du Seigneur ou non. Si notre attitude est bonne, elle est inspirée de Dieu, car tout ce qui est bon vient de Dieu. Par contre, si elle est mauvaise, c'est l'ennemi qui nous influence parce qu'il persuade les hommes de faire le mal. Les Africains m'ont touché par leur volonté et leur détermination de rester sur le territoire du Seigneur, même dans les circonstances difficiles de la vie. Les personnes qui acceptent l'invitation d'aller au Christ deviennent une lumière pour le monde. Il y a quelques semaines, alors que je rendais visite à l'une des paroisses d'Afrique du Sud, j'ai eu l'honneur d'accompagner deux jeunes prêtres, leur évêque et leur président de pieu, lors d'une visite à des jeunes gens non pratiquants de leur collège. J'ai été très impressionné du courage et de l'humilité dont ces deux prêtres ont fait preuve quand ils ont invité les deux jeunes gens non pratiquants à revenir à l'église. Pendant qu'ils leur parlaient, j'ai remarqué que leur visage reflétait la lumière du Sauveur et qu'en même temps, elle rayonnait sur toutes les personnes qui les entouraient. Ils accomplissaient leur devoir d'aller au secours des faibles, de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent. L'attitude de ces deux prêtres les situait sur ce territoire du Seigneur. Et quand ils invitaient les autres à faire la même chose, ils étaient des instruments entre ses mains. Dans Doctrine et Alliance 20, verset 37, le Seigneur nous enseigne ce que signifie semer dans l'esprit et ce qui nous situe vraiment sur le territoire du Seigneur. Nous humilier devant Dieu, démontrer que nous nous présentons le cœur brisé et l'esprit contrit, témoigner devant l'Église que nous nous sommes sincèrement repentis de tous nos péchés, prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, être déterminés à le servir jusqu'à la fin, montrer par nos œuvres que nous avons été reçus par le baptême dans son Église. Notre désir de respecter ces alliances nous prépare à vivre en la présence de Dieu en tant qu'être exalté. Le souvenir de ces alliances doit guider notre comportement envers notre famille, nos interactions avec d'autres personnes et particulièrement nos relations avec le Sauveur. Jésus-Christ a donné le modèle parfait de comportement sur lequel nous pouvons calquer notre attitude pour pouvoir respecter ces alliances sacrées. Le Sauveur a chassé de sa vie toute influence pouvant le détourner de sa mission divine, particulièrement quand l'ennemi ou les disciples de celui-ci l'ont tenté pendant son ministère terrestre. Bien qu'il n'ait jamais péché, il avait le cœur brisé et l'esprit contrit, rempli d'amour pour notre Père Céleste et pour tous les hommes. Il s'humiliait devant notre Père Céleste, soumettant sa volonté pour accomplir ce que le Père avait exigé de lui en toute chose jusqu'à la fin. Même à ce moment de douleur physique et spirituelle extrême, alors qu'il portait sur ses épaules le fardeau des péchés de toute l'humanité et que du sang perlait par ses pores, il dit à son Père, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je prie, mes frères et sœurs, pour que lorsque nous pensons à nos alliances, nous restions fermes contre les traits enflammés de l'adversaire, que nous suivions l'exemple du Sauveur afin de semer dans l'esprit et rester sur le territoire du Seigneur. N'oublions pas la formule du président Manson. Vous ne pouvez pas avoir raison en faisant le mal. Vous ne pouvez pas vous tromper en faisant le bien. Au nom de Jésus-Christ, amen.
J'exprime ma reconnaissance pour les personnes qui ont servi si fidèlement et je soutiens avec enthousiasme celles qui ont été appelées. Quand les autorités générales de l'Église rencontrent les membres partout dans le monde, nous voyons combien les saints des derniers jours sont une force positive. Nous vous remercions pour tout le bien que vous faites à chacun. Nos gens qui s'occupent de la communication sont bien conscients que beaucoup de leaders d'opinion et de journalistes aux États-Unis, comme partout dans le monde, parlent de plus en plus de l'Église et de ses membres dans leurs interventions publiques. Une confluence unique de facteurs a mis l'accent de façon importante sur l'Église. Beaucoup de gens qui écrivent sur l'Église font l'effort sincère de comprendre notre peuple et notre doctrine. Ils sont courtois et c'est notre objectif. Nous les en remercions. Nous avons aussi conscience que beaucoup de personnes ne sont pas en harmonie avec les choses sacrées. En décembre dernier, lors d'un discours adressé aux dirigeants catholiques à l'Université pontificale grégorienne, Lord Sachs, grand rabbin d'Angleterre, a fait remarquer à quel point certaines parties du monde étaient devenues profanes. Il a dit que l'un des coupables est l'athéisme scientifique agressif qui n'a pas d'oreille pour entendre la musique de la foi. La grande vision introductrice du livre de Mormon est le songe prophétique de Léhi sur l'arbre de vie. Cette vision décrit clairement les obstacles à la foi qui existent de nos jours et le gouffre qui sépare les gens qui aiment Dieu, qui assistent au culte et qui se sentent responsables vis-à-vis de ceux qui ne le font pas. Léhi explique certains comportements qui détruisent la foi. Certains sont orgueilleux, vaniteux et insensés. Ils ne s'intéressent qu'à la prétendue sagesse du monde. D'autres éprouvent un certain intérêt pour Dieu, mais se perdent dans un brouillard profane de ténèbres et de péchés. D'autres encore ont goûté l'amour de Dieu et à sa parole, mais sont honteux à cause des gens qui se moquent d'eux et tombent dans des sentiers interdits. Enfin, il y a ceux qui sont en harmonie avec la musique de la foi. Vous savez qui vous êtes. Vous aimez le Seigneur et son évangile et vous essayez constamment d'appliquer et de faire connaître son message, surtout à votre famille. Vous êtes en harmonie avec les murmures de l'esprit. Vous êtes sensible au pouvoir de la parole de Dieu. Vous avez des pratiques religieuses chez vous et vous essayez diligemment de vivre en disciple du Christ. Nous savons combien vous êtes occupés. Sans clergé professionnel rémunéré, la responsabilité d'administrer l'Église dépend de vous, membres dévoués. Nous savons qu'il est courant pour les membres des épiscopats, des présences de pieux et pour beaucoup d'autres d'offrir de longues heures de service dévoué. Les présidences auxiliaires et les collèges sont exemplaires dans leurs sacrifices désintéressés. Ces services et ces sacrifices sont le fait de tous les membres, jusqu'à ceux qui tiennent les registres de secrétariat aux instructeurs au foyer et aux sœurs visiteuses, fidèles et à ceux qui enseignent. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui travaillent courageusement comme dirigeants scouts ou comme instructeurs à la garderie. Soyez tous assurés de notre amour et de notre reconnaissance pour tout ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Nous savons bien que certains membres sont moins intéressés par certains enseignements du Sauveur et ils sont moins fidèles. Notre désir est que ces membres s'éveillent pleinement à la foi et augmentent leur activité et leur engagement. Dieu aime tous ses enfants. Il veut que tous reviennent à lui. Il désire que tous soient en harmonie avec la musique sacrée de la foi. L'expiation du Sauveur est un don pour tous. Il faut qu'il soit enseigné et compris que nous aimons et respectons toutes les personnes que Léhi a décrites. Souvenez-vous, ce n'est pas à nous de juger. Le jugement appartient au Seigneur. Le président Monson nous a expressément demandé d'avoir le courage de nous abstenir de juger les autres. Il a aussi demandé à tout membre fidèle de secourir ceux qui ont goûté le fruit de l'Évangile, puis qui sont tombés, ainsi que les gens qui n'ont pas encore trouvé le chemin étroit et resserré. Nous prions pour qu'ils tiennent la barre et prennent part à l'amour de Dieu, ce qui remplira leur âme d'une joie extrêmement grande. Bien que la vision de Léhi parle de tout le monde, le concept doctrinal culminant est l'importance éternelle de la famille. La famille étant donnée de Dieu, c'est la cellule la plus importante dans le temps et dans l'éternité. Quand Léhi a pris du fruit de l'arbre de vie, l'amour de Dieu, il désira que sa famille en mangeât aussi. Notre grand désir est d'élever nos enfants dans la vérité et la justice. L'un des principes qui nous aideront à accomplir cela est d'éviter de juger excessivement une conduite insensée ou imprudente, mais pas pécheresse. Il y a bien des années, quand nos enfants étaient encore à la maison, Delina Hawkes a enseigné qu'il est important de faire une distinction entre les erreurs de jeunesse qui doivent être corrigées et les péchés qui nécessitent humilité et repentir. Quand la sagesse fait défaut, nos enfants ont besoin d'enseignement. Quand il y a péché, le repentir est essentiel. Nous avons trouvé cela très utile pour notre famille. La pratique de la religion au foyer est une bénédiction pour leur famille. L'exemple est particulièrement important. Ce que nous sommes parle si fort que nos enfants risquent de ne pas entendre ce que nous disons. Quand j'avais presque 5 ans, on a dit à ma mère que son petit frère avait été tué quand le cuirassé sur lequel il était a été bombardé près des côtes du Japon vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette nouvelle l'a atterré. Elle a été très affectée et est allée dans la chambre. Après un moment, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre pour voir si elle allait bien. Elle était agenouillée en prière au pied du lit. Une grande paix est descendue sur moi parce qu'elle m'avait enseigné à prier et à aimer le Sauveur. C'était typique de l'exemple qu'elle m'a toujours montré, l'exemple de mère et des pères qui prient avec leurs enfants peut être plus important que n'importe quel autre. Le message, le ministère et l'expiation de Jésus-Christ, notre Sauveur, est notre programme essentiel d'études familiales. Aucune écriture ne caractérise mieux notre foi que 2 Néphi 25-26. Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties, afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. L'un des principes sous-jacents de la vision de Lehi est que les membres fidèles doivent tenir fermement la barre de fer pour rester sur le chemin étroit et resserré qui mène à l'arbre de vie. Il est essentiel que les membres lisent, sondent et étudient les Écritures. Le livre de Mormon est extrêmement important. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui en sous-estimeront l'importance ou qui dénigreront ce livre sacré. Certains ont utilisé l'humour. Avant que je ne parte en mission, un professeur d'université a cité la déclaration de Mark Twain disant que s'il en avait retiré et il arriva que du livre de Mormon, il n'y aurait été qu'une brochure. Mais quelques mois plus tard, quand j'étais en mission à Londres, en Angleterre, un éminent professeur de l'Université de Londres, formé à Oxford et expert égyptien en langue sémitique, a lu le livre de Mormon, a correspondu avec David O'Mackay et a rencontré les missionnaires. Il leur a dit qu'il était convaincu que le livre de Mormon était bien une traduction de la science des Juifs et du langage des Égyptiens dans la période décrite dans le livre de Mormon. L'un des nombreux exemples qu'il a utilisés était la locution conjonctive « et il arriva que », qui, a-t-il dit, correspondait à la façon dont il traduirait l'expression utilisée dans des écrits sémitiques anciens. Nous avons dit au professeur que, même si son approche intellectuelle basée sur sa profession l'avait aidé, il était essentiel qu'il obtienne un témoignage spirituel. Par l'étude et la prière, il a acquis un témoignage spirituel et s'est fait baptiser. Donc, ce qu'un humoriste célèbre a considéré comme ridicule, un érudit l'a reconnu comme étant une grande preuve de la véracité du livre de Mormon, ce qui lui a été confirmé par l'Esprit. La doctrine essentielle du libre-arbitre requiert que le témoignage de l'Évangile rétabli soit basé sur la foi plutôt que sur une preuve extérieure ou scientifique. Il n'est ni efficace ni source de progrès spirituel de se concentrer sur des choses qui n'ont pas encore été complètement révélées, comme la manière dont la naissance du Sauveur, d'une mère vierge ou sa résurrection se sont produites, ou comment juste Joseph Smith a traduit nos Écritures. Ce sont des questions de foi. La réponse, en fin de compte, avec le conseil de Moroni, de lire et de méditer, puis de demander à Dieu d'un cœur sincère, avec une intention réelle, de confirmer des vérités spirituelles par le témoignage de l'Esprit. En plus de cela, quand nous intégrons à notre vie les impératifs scripturaires et vivons l'Évangile, nous sommes bénis par l'Esprit et goûtons la bonté en ressentant de la joie, du bonheur et surtout de la paix. Il est clair que la séparation entre les gens qui entendent la musique de la foi et ceux qui n'ont pas d'oreilles ou chantent faux est l'étude active des Écritures. Il y a des années, j'ai été profondément touché qu'un prophète bien-aimé, Spencer W. Kimball, met l'accent sur la nécessité de continuellement lire et étudier les Écritures. Il a dit, « Je constate lorsque j'en prends à mon aise dans mes rapports avec la divinité, et lorsqu'il semble qu'aucune oreille divine n'écoute et qu'aucune voix divine ne parle, que je suis loin, très loin. Si je me plonge dans les Écritures, la distance se réduit et la spiritualité revient. » Fin de citation. J'espère que nous lisons le livre de Mormon régulièrement avec nos enfants. J'ai discuté de cela avec mes enfants. Ils m'ont fait part de deux remarques. La première, c'est que le secret, c'est de persévérer dans la lecture des Écritures en famille. Ma fille me décrit sur le ton de la plaisanterie les efforts que son mari et elle font tôt le matin avec leurs enfants, pour la plupart adolescents, pour lire régulièrement les Écritures. Son mari, elle, se lève tôt le matin et l'esprit, encore embrumé, cherche à mettre la main sur la rampe en fer qui longe l'escalier, jusqu'à l'endroit où leur famille se rassemble pour lire la parole de Dieu. La clé, c'est la persévérance, et cela aide d'avoir le sens de l'humour. Cela demande tous les jours un grand effort de la part de chaque membre de la famille, mais cela en vaut la peine. les échecs temporaires sont éclipsés par la persévérance. La deuxième est la manière dont notre plus jeune fils et sa femme lisent les Écritures avec leurs jeunes enfants. Deux de leurs quatre enfants sont trop jeunes pour lire. Pour celui de 5 ans, ils ont un système de signes à 5 doigts qu'il comprend pour lui permettre de participer pleinement à l'étude familiale des Écritures. Le signe du premier doigt est qu'il répète et il arrive à que chaque fois que l'expression apparaît dans le livre de Mormon. Je dois reconnaître que j'aime voir cette expression apparaître si souvent. Pour les jeunes familles intéressées, le deuxième doigt signale qu'il doit répéter et ainsi nous voyons. Les signes des troisième, quatrième et cinquième doigts sont choisis par les parents selon les mots contenus dans le chapitre qu'ils lisent. Nous savons que l'étude des Écritures en famille et les soins familiales ne sont pas toujours parfaites. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, ne vous découragez pas. Comprenez que la foi au Seigneur Jésus-Christ et l'observance de ses commandements sont et seront toujours le test majeur de la condition mortelle. Par-dessus tout, nous devons tous comprendre que quand quelqu'un n'entend pas la musique de la foi, il n'est plus en harmonie avec l'Esprit. Comme le prophète Néphi l'a enseigné, si vous avez entendu sa voix, il vous a parlé avec une petite voix douce, mais vous aviez perdu toute sensibilité, de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles. Notre doctrine est claire, nous devons être positifs et prendre courage. Nous mettons l'accent sur notre foi, pas sur nos peurs. Nous nous réjouissons de l'assurance que nous donne le Seigneur, qui se tiendra à nos côtés, nous guidera et nous dirigera. Le Saint-Esprit témoigne dans notre cœur que nous avons un Père céleste aimant, dont le plan miséricordieux pour notre rédemption s'accomplira dans tous ses aspects grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Comme Naomi W. Randall, auteur de « Je suis enfant de Dieu », a écrit, « Son esprit me guide, son amour m'assure que la peur part quand la foi perdure. » Où que nous nous trouvions sur le chemin des disciples de la vision de Léhi, prenons la résolution de susciter en nous-mêmes et en notre famille un plus grand désir d'obtenir du Sauveur ce don incompréhensible qu'est la vie éternelle. Je prie pour que nous restions en harmonie avec la musique de la foi. Je témoigne de la divinité de Jésus-Christ et de la réalité de son expiation. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
We express gratitude.
Nous remercions toutes les personnes qui ont pris la parole aujourd'hui. Nous rappelons aux frères que la réunion générale de la prêtrise commencera au centre de conférence ce soir à 18h, heure d'été de Salt Lake City. La diffusion nationale de l'émission du Chœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure de Salt Lake City. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Nous remercions le chœur du Centre de formation des missionnaires de Provo de la belle musique qu'il a interprétée cet après-midi. Richard G. Scott, du Collège des Douze Apôtres, sera notre dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur chantera au grand prophète. Bruce A. Carlson, des 70, fera la prière de clôture.
Anyone who stands at this pulpit to deliver a message feels the strength and support of members throughout the world.
Quiconque se tient à ce pupitre pour délivrer un discours reçoit du soutien de la part des personnes de l'autre côté du voile. J'en reçois de la part de ma compagne et épouse qui se trouve de l'autre côté. Le Saint-Esprit communique des informations importantes dont nous avons besoin pour être guidés dans notre voyage dans la condition mortelle.
lorsqu'elles sont extrêmement claires et essentielles, elles méritent le titre de révélation. Lorsque c'est une série d'incitations qui sont souvent là pour nous guider pas à pas vers un objectif louable, il s'agira, pour le propos de ce discours, d'inspiration. On pourrait donner comme exemple d'inspiration celle que Spencer W. Kimball a reçue après ses inlassables et incessantes supplications au Seigneur concernant l'octroi de la prêtrise à tous les hommes dignes de l'Église, à l'époque où elle n'était donnée qu'à certains. Autre exemple de révélation, cette directive donnée à Joseph F. Smith. Je crois que nous nous déplaçons et sommes en présence de messagers célestes et d'êtres célestes. Nous ne sommes pas séparés d'eux. Nous sommes étroitement liés à nos ancêtres qui nous ont précédés dans le monde des esprits. Nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne cessons pas de les aimer. Ils sont toujours dans notre cœur, dans notre mémoire, et nous sommes unis à eux par des liens qui ne peuvent pas être rompus. Si tel est le cas, pour nous, dans notre condition limitée, entourés de nos faiblesses dans la condition mortelle, il est tellement plus certain de croire que ceux qui ont été fidèles, qui sont partis dans l'au-delà, peuvent mieux nous voir que nous ne pouvons les voir, qu'ils nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Nous vivons en leur présence. Ils nous voient et ils se soucient de notre bien-être. Ils nous aiment maintenant plus que jamais, car ils voient maintenant les dangers qui nous assaillent. Leur amour pour nous, ainsi que le désir qu'ils ont de notre bien-être, doivent être plus grands que ce que nous ressentons pour nous-mêmes. Des liens peuvent être renforcés au-delà du voile avec des gens que nous connaissons et aimons. Cela s'accomplit par nos efforts déterminés pour faire continuellement ce qui est bien. Nous pouvons renforcer nos liens avec des personnes décédées que nous aimons en concédant que la séparation n'est que temporaire et que les alliances contractées dans le temple sont éternelles. Si nous respectons constamment ces alliances, elles garantiront la réalisation éternelle des promesses qui y sont attachées. J'ai eu, dans ma vie personnelle, un cas très clair de révélation, le jour où je me suis senti fortement poussé par l'esprit à demander à Janine Watkins d'accepter d'être scellée à moi dans le temple. L'une des grandes leçons que nous avons tous besoin d'apprendre, c'est qu'il faut demander. Pourquoi le Seigneur veut-il que nous le prions et que nous demandions? Parce que c'est de cette façon que l'on reçoit la révélation. Lorsque je suis face à une chose très difficile, voici comment j'essaie de comprendre ce qu'il faut faire. Je jeûne. Je prie pour trouver des écritures qui seront utiles et pour les comprendre. C'est un cycle. Je commence par lire un passage des Écritures, je médite sur le sens de ce verset et je prie pour obtenir l'inspiration. Puis je médite et prie pour savoir si j'ai saisi tout ce que le Seigneur veut que je fasse. D'autres impressions me viennent souvent par une compréhension accrue de la doctrine. J'ai découvert que ce modèle est un bon moyen d'apprendre à partir des Écritures. Il existe des principes pratiques pour améliorer la révélation. Premièrement, le fait de céder à certaines émotions chasse le Saint-Esprit. Par exemple, lorsqu'on est en colère, blessé ou sur la défensive. Ces émotions doivent être éliminées, sinon les chances de recevoir une révélation sont faibles. Un autre principe consiste à utiliser l'humour avec prudence. Les rires bruyants et inappropriés offensent l'esprit. Un bon sens de l'humour est une aide à la révélation. Les rires bruyants ne le sont pas. Le sens de l'humour est une soupape d'échappement pour les pressions de la vie. Un autre ennemi de la révélation provient de l'exagération ou de la force des déclarations. Un discours doux et attentif favorisera la révélation. De plus, la communication spirituelle peut être améliorée par de bonnes pratiques de santé, de l'exercice une quantité de sommeil suffisante et de bonnes habitudes alimentaires augmentent nos capacités de recevoir et de comprendre la révélation. Nous vivrons le nombre d'années qui nous est attribué. Cependant, nous pouvons améliorer à la fois la qualité de notre service et notre bien-être en faisant des choix judicieux. Il est important que nos activités quotidiennes ne nous empêchent pas d'écouter l'Esprit. La révélation peut également être donnée dans un songe pour lequel il y a une transition presque imperceptible du sommeil au réveil. Si vous vous efforcez d'en noter le contenu immédiatement, vous pouvez indiquer de nombreux détails, sinon ils s'effacent rapidement. La communication inspirée pendant la nuit s'accompagne généralement d'un sentiment sacré à l'égard de toute l'expérience. Le Seigneur se sert de personnes pour lesquelles nous éprouvons un grand respect, afin de nous enseigner des vérités dans un songe, parce que nous leur faisons confiance et que nous écouterons leurs conseils. C'est le Seigneur qui enseigne par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Néanmoins, dans un songe, il peut rendre les choses plus faciles à comprendre et plus aptes à toucher notre cœur, en nous instruisant par l'intermédiaire de quelqu'un que nous aimons et respectons. Quand c'est pour la réalisation de ses desseins, le Seigneur peut nous rappeler quelque chose. Cela ne devrait pas affaiblir notre détermination de noter les impressions que nous recevons de l'Esprit. Le fait d'écrire minutieusement ses inspirations montre à Dieu que ce qu'il nous communique est sacré pour nous. Le fait d'écrire nous aide également à nous souvenir de la révélation. Les notes prises sous l'inspiration de l'Esprit doivent être protégées pour n'être ni perdues ni consultées par d'autres personnes. Les Écritures donnent une confirmation éloquente de la façon dont la confiance, vécue continuellement, ouvre la porte à l'inspiration pour savoir quoi faire et, lorsque c'est nécessaire, pour que les capacités personnelles soient accrues par pouvoir divin. Les Écritures racontent comment la capacité d'une personne à surmonter les difficultés, le doute et des défis apparemment insurmontables ont été augmentées par le Seigneur lorsque cela a été nécessaire. En réfléchissant à ces exemples, vous recevrez du Saint-Esprit la confirmation paisible que leurs expériences sont vraies. Vous saurez qu'une aide semblable vous est accessible. J'ai vu des gens qui rencontraient des difficultés et savaient quoi faire, alors qu'ils manquaient d'expérience, parce qu'ils avaient fait confiance au Seigneur et savaient qu'il leur donnerait des solutions dont ils avaient un besoin urgent. Le Seigneur a déclaré, « Et vous allez être enseignés d'en haut. Sanctifiez-vous, et vous serez dotés de pouvoir, afin de donner tout comme je l'ai dit. » L'expression « sanctifiez-vous » peut paraître déroutante. Le président Lee m'a expliqué un jour que l'on peut remplacer ces mots par l'expression « respectez mes commandements ». Énoncé ainsi, ce conseil peut sembler plus clair. Il faut être vraiment pur mentalement et physiquement et avoir une intention pure pour que le Seigneur puisse inspirer. Le Seigneur fait confiance à quelqu'un qui obéit à ses commandements. Cette personne a droit à l'inspiration pour savoir ce qu'il faut faire et selon les besoins, au pouvoir de le faire. Pour que la spiritualité se fortifie et soit plus accessible, elle doit être plantée dans un terrain vertueux. L'arrogance, l'orgueil, et la vanité sont comme des sols pierreux qui ne produiront jamais de fruits spirituels. L'humilité est un sol fertile où la spiritualité s'épanouit et produit le fruit de l'inspiration qui aide à savoir ce qu'il faut faire. Elle donne accès au pouvoir divin d'accomplir ce qui doit l'être. Une personne motivée par le désir de louange ou de reconnaissance ne se qualifiera pas pour être instruite par l'esprit. Une personne arrogante ou qui laisse ses émotions influencer ses décisions ne sera pas dirigée puissamment par l'esprit. Quand nous sommes des instruments en faveur d'autrui, nous sommes plus facilement inspirés que lorsque nous pensons seulement à nous-mêmes. Quand nous aidons autrui, le Seigneur peut nous insuffler des directives pour notre bénéfice. Notre Père Céleste ne nous a pas mis sur la terre pour que nous échouions, mais pour que nous réussissions glorieusement. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est pour cela qu'il peut parfois être très difficile de reconnaître les réponses aux prières. Parfois, nous essayons imprudemment d'affronter la vie, ne nous appuyant que sur notre expérience et sur nos capacités. Il est beaucoup plus sage de rechercher dans la prière l'inspiration divine pour savoir comment agir. Notre obéissance nous assure, lorsque c'est nécessaire, que nous pourrons nous qualifier pour recevoir le pouvoir divin d'atteindre un objectif inspiré. Comme beaucoup d'entre nous, Oliver Cowdery n'avait pas reconnu les réponses que le Seigneur avait déjà faites à ses prières. C'est pour lui ouvrir les yeux et les nôtres que cette révélation a été donnée par l'intermédiaire de Joseph Smith. Tu es béni pour ce que tu as fait, car tu m'as interrogé, et voici toutes les fois que tu m'as interrogé, tu as reçu des instructions de mon esprit. S'il n'en avait pas été ainsi, tu ne serais pas venu là où tu te trouves en ce moment. Voici, tu sais que tu m'as interrogé et que j'ai éclairé ton esprit. Et maintenant, je te dis ces choses pour que tu saches que tu as été éclairé par l'esprit de vérité. Si vous avez le sentiment que Dieu n'a pas exaucé vos prières, méditez sur ces Écritures. Puis, recherchez soigneusement dans votre vie les signes indiquant qu'il vous a peut-être déjà répondu. Les deux indicateurs qu'un sentiment vient de Dieu sont la paix qu'il produit en votre cœur et la douce sensation de chaleur qu'il vous donne. En suivant les principes dont j'ai parlé, vous serez prêt à reconnaître la révélation à des moments critiques de votre vie. Plus vous suivrez fidèlement l'inspiration divine, plus votre joie sera grande ici et pour l'éternité, et plus vos progrès et votre capacité de servir seront abondants. Je ne comprends pas totalement comment cela s'accomplit, mais cette inspiration dans votre vie ne vous prive pas de votre libre arbitre. Vous pouvez prendre les décisions de votre choix. Mais souvenez-vous que la disposition à faire le bien apporte la paix de l'esprit et du cœur. Si les choix sont mauvais, on peut les rectifier par l'intermédiaire du repentir. Si nous en remplissons complètement les conditions, l'expiation de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous libère des exigences de la justice pour les fautes commises. C'est merveilleusement simple et incomparablement magnifique. Si vous continuez à mener une vie juste, vous recevrez toujours l'inspiration pour savoir comment agir. Parfois, pour découvrir l'action à suivre, il faut de la confiance et des efforts importants de votre part. Cependant, vous serez inspiré pour savoir ce qu'il faut faire si vous remplissez les conditions pour recevoir l'inspiration divine dans votre vie, à savoir l'obéissance aux commandements du Seigneur, la confiance en son plan divin de bonheur et le refus de tout ce qui est contraire. La communication avec notre Père Céleste n'est pas une chose anodine. C'est un privilège sacré. Elle est basée sur des principes éternels immuables. Nous recevons l'aide de notre Père Céleste en réponse à notre foi, à notre obéissance et au bon usage du libre arbitre. Que le Seigneur vous inspire pour comprendre et appliquer les principes qui mènent à la révélation personnelle et à l'inspiration. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Notre très cher Père éternel, nous venons devant toi à la fin de cet après-midi pour t'adorer et pour te remercier du privilège qui était le nôtre. Nous te remercions de ce que nous avons vu et entendu, cette musique et ces paroles, et nous nous réjouissons de ce que nous avons ressenti, car beaucoup sont venus cet après-midi à la recherche de réponses à des problèmes complexes et difficiles, et ils pourront maintenant partir édifiés de ce qu'ils ont ressenti. Nous te prions pour que cette lumière que nous ressentons de cette durant cette session de conférence puisse nous guider, pour que nous puissions apprendre au pied des apôtres et des prophètes. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à une session de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par un chœur de missionnaires du Centre de formation des missionnaires de Provo. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.